Et il faut se rapprocher bien du micro hein, pour se faire entendre. Voilà. Merci d'être venus si nombreux d'abord pour cette séance-ci. Vous avez successivement, ou vous allez assister à des séances sur la gouvernance mondiale qui était hier matin, la gouvernance européenne qui est ce soir, et entre les deux s'intercale la notion de gouvernance d'entreprise, qui paraît quelque chose de tout à fait décalé par rapport au thème que vous avez entendu hier matin ou que vous allez entendre ce soir, puisque dans un cas il s'agit de gouvernements qui ont à monter une gouvernance quand il n'y a pas de gouvernement, c'est-à-dire à l'échelle internationale. Quand il s'agit de l'entreprise, on est dans le micro, on est dans l'acteur économique de base, mais la question pourtant se pose aussi avec ce terme-là. Il faudra bien sûr le définir, l'expliquer et montrer pourquoi il a pris une ampleur dans le débat public, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a peu, même si la question existait bien entendu, même si elle était l'objet de recherches, de spécialistes et de débats dans les entreprises, mais ce n'était pas sorti dans le public de manière générale. En revanche, ce terme maintenant est devenu même un mot passe-partout et il en est fortement question pour deux raisons essentiellement, me semble-t-il, c'est que la question de la responsabilité sociale des entreprises, c'est d'abord apparu sous ce terme-là de la responsabilité sociale des entreprises à travers une série d'événements désagréables, on va dire, concernant l'environnement, concernant la mondialisation et la chaîne de logistique des entreprises, la chaîne de fournisseurs des entreprises dans les pays en voie de développement. Il y a un certain nombre de thèmes qui, à travers la mondialisation et l'environnement sont apparus comme étant de la responsabilité des entreprises. Ça a été une première manifestation. Et ensuite, à la faveur, si on peut dire, de la crise, la question de la responsabilité sociale de l'entreprise s'est en quelque sorte retournée sur elle-même. C'est-à-dire que on peut s'interroger sur les effets de la performance de l'entreprise sur la société, qui a été le cas dans le thème de l'environnement ou de le thème de la responsabilité sociale, mais aussi, à travers la crise, à travers les événements de la crise, il s'est avéré qu'il y avait des questions concernant la gouvernance des entreprises, l'effet de la gouvernance des entreprises sur elles-mêmes, c'est-à-dire sur leur propre performance. Et c'est là que les intérêts des stakeholders, comme on dit, c'est-à-dire des parties prenantes extérieures à l'entreprise et des shareholders, les actionnaires de l'entreprise, peuvent éventuellement se croiser. Voilà, donc c'est autour de ce sujet-là que nous avons réuni un panel qui est composé de gauche à droite de Alissa Kolertsova, qui est de la division entreprise de l'OCDE et qui va nous expliquer pourquoi, à un moment donné, à une date déterminée, qui doit dater de 2000 à peu près, 2002, je ne sais plus, l'OCDE a émis des guidelines, comme on appelle ça, c'est-à-dire des lignes directrices concernant le comportement des entreprises multinationales dans le champ de leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement, des communautés locales dans lesquelles, avec lesquelles ils travaillent, etc. Et l'autre thème qu'elle abordera sera sur que se passe-t-il du côté des entreprises des pays émergents, car Mme Kolertsova s'occupe en particulier des entreprises des pays arabes dont certains sont candidats, je crois, à l'entrée à l'OCDE. Donc comment ces principes peuvent s'appliquer à des entreprises, on va dire, non occidentales. Daniel Lebègue, président de l'Institut français des administrateurs, mais qui est administrateur lui-même de nombreuses sociétés, qui a été directeur général de la BNP puis de la Caisse des dépôts, mais qui aussi, il y a beaucoup de casquettes, président de Transparency International France, qui est président de l'ORS, qui est l'Observatoire de la responsabilité sociale de l'entreprise, et qui, quand il était à la Caisse, a beaucoup œuvré pour promouvoir la notion de notation sociale pendant un certain temps. Donc c'est avec c'est toutes ces casquettes que M. Lebègue nous parlera de comment lui a vu évoluer la gouvernance des entreprises, alors là, françaises, et essentiellement du CAC 40, sur ces dernières années, dans la mesure où elles ont été confrontées aux thèmes que j'ai décrits précédemment. Philippe Poinclou, qui est directeur général de Towers Watson France. Towers Watson est un cabinet de conseil auprès des grandes entreprises sur les stratégies de rémunération des dirigeants et cadres dirigeants, mais et aussi sur l'organisation de la gouvernance. Donc, lui va aussi nous dire comment les choses ont évolué, mais surtout, qu'est-ce qu'il reste à faire évoluer pour que ces politiques de gouvernance ou cette meilleure organisation de la gouvernance se mette effectivement en place. Et enfin, Pierre-Yves Gomez, qui est lyonnais, qui est professeur à l'école de management de Lyon, l'EM Lyon, et qui a créé l'Observatoire de la gouvernance des entreprises à l'école, et qui est par ailleurs chroniqueur au Monde Économie. Ce que je n'ai pas dit, évidemment, c'est que je suis moi-même Antoine Reverchon, responsable du Monde Économie, le supplément du lundi du Monde, daté mardi. Voilà. Et donc, Pierre Gomez nous envoie régulièrement, chaque mois, une chronique passionnante sur la gouvernance d'entreprise. Et ce que je vais lui demander, c'est de commencer d'être le premier à parler pour expliquer dans quel cadre, de quoi on va parler, en fait. Est-ce que le terme de gouvernance d'entreprise n'est pas forcément clair pour tout le monde? Et je pense que commencer par définir ce que c'est, ce que ce n'est pas, et pourquoi est-ce que ce thème est venu sur le devant de la scène, assez récemment, me paraît indiqué pour démarrer cette table ronde. Pierre-Yves Gomez.
Entendez.
Tout près, tout près.
J'entends pas. J'ai un peu peur parce que on dit tout à fait sur ce que je vais intervenir et j'ai peur que ça aille dans un peu, ça va revenir un peu plus. Vous avez parlé en cours d'exposé d'introduction au départ, qui va lieu entre les participants et bien sûr les personnes. Après, vous avez fini l'introduction, ce que je vais vous dire va vous paraître au sens, non seulement du début de l'après-midi, mais du fait que je vais exprimer en 15 minutes, ce qui évidemment nécessite beaucoup de temps. Donc, en fait, c'est l'introduction au débat, et vous aurez le temps de poser des questions ou de donner des réponses, ou de entendre les réponses des autres participants. Et je suis maintenant à votre place, si j'avais à poser, à comprendre ce dont on parle, quelles questions je me poserais. En fait, je me rends compte que j'en ai oublié une, mais j'ai compris par celle-ci, quand on parle de la gouvernance d'entreprise, les définitions économiques de la gouvernance d'entreprise, c'est l'ensemble des mécanismes institutionnels et réglementaires qui définissent le pouvoir de ceux qui sont appelés à orienter l'entreprise. En clair, c'est le mécanisme qui définit ce qui est le pouvoir de dirigeant. Limite dans le sens de créer, ça fait une frontière à ce pouvoir. C'est donc la gouvernance. Alors, la question que je me suis posée, j'espère que vous avez pu vous la poser, la question de la gouvernance, en ce qui concerne les limitations du pouvoir du dirigeant, est-elle récente? La question, qui convient que les principes de gouvernement d'entreprise, en France, c'est gouvernement d'entreprise, on n'en fait pas pour la gouvernance, donc en pré-traduction, gouvernance d'entreprise, le conseil que les principes de gouvernement d'entreprise sont liés à pousser les actionnaires. Troisième question, peut-on dire que ces nouveaux principes, les principes qu'on a mis en place depuis une dizaine d'années, ont vraiment changé la gouvernance d'entreprise, notamment le pouvoir de l'entreprise? Et quatrième question, peut-on envisager en effet, la crise actuelle sur l'évolution de la gouvernance d'entreprise. Vous voyez, le passé, le quasi présent, on peut s'imaginer ce qui s'est passé depuis 30 000 années, et éventuellement dans le futur. Encore une fois, je vais pas répondre à cette question pour donner un avis, un tiré d'opinion, bien sûr, le débat qui va nous permettre de les dossiers. J'ai la ferai pour me répondre à ce que j'ai participé au CDE. Première question, le gouvernement d'entreprise dans l'action, la CPR, non. La question de l'entreprise est aussi liée au capitalisme, elle est liée en même temps au capitalisme. Vous avez le grand. Et c'est Smith, c'est 776, la richesse de nation, 130 heures, et déjà dans la crise de nation, vous avez le chapitre excellent. Qui exprime différemment son professionnel et un vrai entrepreneur, un peu plus, qui n'est pas un simple entrepreneur. Depuis l'origine des entreprises, depuis qu'il existe des entreprises, on peut poser la question des limitations des pouvoirs de ceux qui sont chargés ça passera les années 95, qui n'en est pas de sortir, qui ça passera sur les histoires pro-américaines, qui est bien pour en France, bien sûr. Et non seulement le fait que ça n'a pas fait, mais c'est vu comme une crise, heureusement, mais avec le régime des mécanismes, entre la question de l'égalité, de pouvoir, de l'intelligence, sur ce que c'est que diriger l'entreprise. Et à chaque période de l'histoire, on a donné une réponse à la France, on voit dans les historiens. Par exemple, pourquoi c'est important de savoir qu'on est aujourd'hui et ce qu'on est demain? Pas simplement que ça montre le futur, mais parce qu'il faut, à un grand terme, contextualiser ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'environnement d'aujourd'hui. En fait, on a donné des réponses dans les années 80, 2010, financière, la gouvernance de cette entreprise, comme on avait donné d'autres réponses dans les personnes qui étaient à l'appel précédemment, comme on donnera d'autres réponses en termes de gouvernance dans les périodes futures. Donc, il est bon de relativiser ce qu'on va dire, et notamment, quand elles sont intervenantes, on a entendu que les personnes sont intéressées par les sociétés d'entreprise, par une nouvelle façon de penser précisément la gouvernance. Donc, la question, est-ce que c'est récent ou non, c'est aussi vieux que l'entreprise existe. Deuxième question, peut-on dire que les principes de gouvernement d'entreprise sont bien poussés les actionnaires depuis une trentaine d'années, les négociations courantes, ils ont poussé les actionnaires, les fameuses montées des actionnaires, les actionnaires prennent le pouvoir, donc ils expliquent les évolutions de gouvernance. Est-ce qu'on s'est lancé? Non, oui. Alors, non, d'abord, parce que. Le pouvoir actionnaire est aussi utilisé comme capitalisme. Capitalisme, c'est aussi un système politique qui donne le pouvoir au capital. Capitalisme. C'est pas nouveau. De l'actionnaire qui a son pouvoir, c'est pas nouveau. De l'immense majorité des entreprises, avant et après les réformes de gouvernance dont on a parlé, on a un actionnariat majoritaire. Dans l'immense majorité des entreprises françaises et même américaines, on a un actionnariat majoritaire. Donc, dire que soudain l'actionnariat se réveille, c'est qu'il va nous aussi avoir le pouvoir, sauf que le régime capitaliste, il va exercer son pouvoir. En revanche, ce qui est nouveau, je ne peux pas le faire qu'en bref, c'est que dans les années 70, on a, on a désintermédié l'épargne bancaire. C'est-à-dire l'épargne des ménages, parce que les banques vont distribuer des crédits d'entreprise. Différentes évolutions du modèle financier ont conduit à intermédier les parts des ménages par une nouvelle industrie qui s'appelait l'industrie financière. Et donc, les fameux investisseurs financiers qui sont nés à ces années. Ce sont eux qui ont exercé une poussée, une pression pour modifier les règles de gouvernance. Ça, on ne peut pas le nier. Et pour toutes les raisons d'ailleurs. Parce qu'ils ont en charge une part des ménages. Il faut oublier que derrière les fonds de pension, il y a une retraite. Une retraite de moins de temps. Et derrière les SIDAV ou les fonds français, il y a l'État des moins français. Donc, les investisseurs institutionnels, les investisseurs généraux, sont en charge de maintenir le niveau d'épargne. Et donc, il faut que les risques qu'ils prennent en plaçant cet argent auprès de l'entreprise soient limités au moins à l'entreprise. D'où les nécessités. De l'autorité d'information, la transparence, la gouvernance, et ça a été évidemment un élément qui a conduit à la situation de gouvernance. Mais une chose est de dire que c'est une poussée des actionnaires, une autre est de dire que c'est une poussée des investisseurs. Parce que c'est une forme capitaliste originale, très nouveau d'ailleurs, une forme capitaliste, le capitalisme des investisseurs. Vous pourrez vous faire remarquer, si vous n'avez plus de temps, que les grands codes de gouvernance parlent toujours de la défense des investisseurs. Jamais des actionnaires. En anglais. Investors en anglais, ils sont investors et pas shareholders. France, c'est pas l'actionnaire d'ailleurs en tant que donc, c'est investisseur. Investisseur, ça veut dire qu'entre ceux qui possèdent le capital d'entreprise, il y a une relation de placement d'épargne qui n'est pas tout à fait une relation capitaliste traditionnelle. C'est une vraie question. Qui est assez peu abordée au final, c'est une vraie question. Donc, on a modifié. La façon traditionnelle de penser, l'actionnariat. Comme vous êtes très fort en économie, c'est l'équipe de ce qu'on appelle Ray Lubor en économie, qui est Robert Seb, en 1936, qui a un très bon activisme, c'est qui prend la décision pour le consiste à subir les principales conséquences. C'est au moins cette règle qu'on a considérée pour certains individus comme pouvant mourir. On a introduit les conditions d'investisseurs auprès des épargnants et des entreprises. On a introduit l'industrie, qui n'est pas une responsabilité sûre, mais qui a dissé le traditionnel de l'actionnaire. Et donc, on s'est servi finalement, ça n'était pas la question, comment dire les principes de l'entreprise sont bien la plus importante, mais en fond, ce sont des abus, c'est de la finance, l'épargne financiarisée, donc c'est nécessaire. Donc, une fois, pour des raisons trop négligées, on n'a pas très directement d'actionnaire. La troisième question, qu'est-ce qu'on dit les nouveaux principes de l'entreprise, redistribuer le pouvoir de l'entreprise. Là aussi, il faut être nuancé, je crois très clairement que. Oui, il y a une très grande évolution et je ne sais pas, davantage, je pense que les intervenants sont infiniment plus calés que moi pour vous donner des exemples d'évolution. J'ai vu aussi ces évolutions pratiques. On peut comparer la façon dont on a appris les statuts, par exemple, une année montée en 2010 et en 1977, et sur les évolutions. Autre chose, la question du pouvoir de l'entreprise. Est-ce qu'on a assisté à une modification du pouvoir d'entreprise? C'est l'élément de débat, si vous voulez. Je vous donne deux idées pour alimenter le futur débat. Première idée, elle est due à un grand monsieur de l'analyse d'entreprise, qui s'appelait Pierre Drucker, et qui, dès 1967, pardon, 1976, dans un bouquin qui s'appelait The Revolution, la révolution des fonctions. C'est le début du mouvement. Et le livre a été réédité sur le titre The Unseen Revolution, la révolution qui n'est pas visible, enfin invisible. Et il disait, le directeur disait, en fait, je pense que c'est la chose la plus nouvelle au capitalisme, c'est la déprivatisation des grandes entreprises. En introduisant des investisseurs nombreux qui ne profitent pas dans le ménage, en fait, on va obliger les entreprises à devenir tout de suite, c'est en anglais, anticiper que si on introduisait ces investisseurs, on allait créer une relation nouvelle entre l'entreprise et le public, donc les parlants, parce qu'il fallait bien que l'entreprise se redevable de l'argent que le public allait placer dans le capital. Et pour lui, c'est un peu le terme, c'est une socialisation du capitalisme. C'est un peu le terme d'un chapitre. Il faut qu'on s'en socialise le capitalisme, c'est pas vrai. Alors, je ne peux pas la dire, je ne sais pas ce qu'elle dit, socialisme, elle dirait une certaine forme de privatisation. Ce qui était du domaine, vous savez, votre esprit, de la famille, du secret des affaires, du clos de la culture, devient public. Ce que disait tout à l'heure Antoine, ouverture, ça devient public, ça devient de tout le monde, ça pourrait. Parce que souvent, on s'intéresse à ça, c'est parce que les ménages sont concernés, les considérations sont concernées, c'est une importance extrêmement importante de s'occuper de savoir comment les entreprises sont gouvernées. Donc, il y a une belle déclaration. Deuxième idée pour alimenter le débat. On a insisté en 30 ans à une modification du pouvoir en entreprise. C'est la prise du pouvoir en entreprise qui est un lieu politique où certains prennent le pouvoir pour aller à lieu où il y a des militaires qui réfléchissent, qui sont rationnels, qui sont stratégiques, qui sont stratégiques, qui sont pareils, mais c'est bien aussi, il y a un pouvoir fort. On a insisté à la prise du pouvoir par les financiers contre les producteurs. Entre les acteurs de la production. C'est très clair, entre 1970 et 2000, vous voyez le nombre de trophées de la production qui appartiennent aux instances dirigeantes des entreprises déclinées et le nombre de financiers s'accroître. Ça, ça a été montré par un auteur américain qui s'appelle le Dura, qui est une formation, qui s'appelle Kirk Durham, qui a montré aux États-Unis. On a assisté pouvoir, à plus de pouvoir pour les financiers. On est en train de faire le même travail pour la France, dans mon institut. Pour comptabiliser le nombre financier par les administrateurs. Est-ce qu'il y a une qui se pouvoir des finances. Donc, ces années, on a parlé, ces années où on a vu la limitation de la croissance entreprise, ont conduit à un changement des rapports de force et une élite, une nouvelle élite, une nouvelle élite pour pouvoir, une nouvelle élite qui a voulu pouvoir faire l'élite de la finance. Donc, la quatrième dernière question en amont, la question c'était. exerçait un effet la crise actuelle sur la gouvernance, est-ce que la crise qui démarrait dans les années 2017, c'est brutal, qui pouvait traduire la fin des cycles de l'élite financière et l'émergence de nouveaux cycles, l'élite pourrait pouvoir dans l'entreprise, c'est qu'il y a motivé de lutter la gouvernance des entreprises avec les élites. Et tout de suite, c'est que oui. C'est qu'on est en train d'assister à la prise de pouvoir d'une nouvelle élite autour de la responsabilisation des entreprises, du rôle politique de l'entreprise, qui pour le pouvoir, n'imaginez pas les appuis de l'État, mais qui s'imposent un peu ses idées, s'imposent davantage. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui un type de mutation dans l'histoire de l'entreprise, quand on est à la fin des cycles financiers, commence à nous dire. Ce qui ouvre deux perspectives, soit on, la gouvernance se maintient comme elle existe aujourd'hui et ça nous aide, voilà, modifie ce qu'il faudrait modifier, créer les nouvelles normes, etc., qui correspondent à ce pouvoir, tant mieux pour la société, soit c'est parce que c'est une crise, ça arrive assez régulièrement, au moment d'une crise, de nouvelles façons de penser l'entreprise, de gouverner l'entreprise, et ce qu'elle a connu dans les années 50, on a la crise évidemment. Où les salariés sont représentants de 50%, c'est une surveillance, on en quitte le 50%. Voilà, vous pouvez une seule opportunité, le débat dira tout à l'heure ce qu'on en pense. Voilà ce que je veux dire à l'introduction.
Donc c'est. Le fonds de pension comme stade suprême du capitalisme, c'est intéressant comme idée. Mais est-ce que c'est une vraie socialisation? Enfin, il y a d'autres pistes sans doute. Daniel Lebègue, justement sur une évolution plus récente, là on a tracé à grands traits l'avant et peut-être après, mais là on est dans le pendant. Que s'est-il passé en... je ne sais pas comment vous datez, ça serait intéressant de dire de quand vous datez un premier mouvement autour de la notion qu'il faut réformer la gouvernance des grandes entreprises en France. Comment vous datez ça? On va faire un peu d'histoire récente. Et dans quelle mesure ça a effectivement évolué, et puis dans quel sens, évidemment. Et est-ce que vous estimez qu'on a abouti à des choses véritablement... des véritables changements ou à des simples changements d'épiderme, juste pour donner un peu l'impression qu'on a évolué, qu'on a compris, mais sans que les choses aient véritablement bougé à la tête des grandes entreprises?
L'importance des gouvernances d'entreprise, on désigne pendant simplement le système de direction et de contrôle de l'entreprise. Dans ce système, qui sont les principaux acteurs? Le dirigeant exécutif, le conseil d'administration, les actionnaires, et puis ceux qu'on a pu désigner comme les autres parties prenantes, salariés, clients, voire. Je vais faire un focus sur le conseil d'administration et les administrateurs. Parce que je préside l'Institut français des administrateurs, je ne vais pas avoir le nom. Deuxièmement, si on pose la question à l'institution, que fait le conseil d'administration qui sont les administrateurs? On aurait probablement pu répondre, je vais dire, à une certaine façon, soit d'enregistrement de messieurs en costume de la pièce, qui déjouent le nom de l'esprit, première école. Il y aura une deuxième école, le conseil d'administration, c'est un peu plus large, où les maîtres de l'entreprise, où l'économie capitaliste, ici, tout simplement. Donc, je vais essayer de vous mettre un contenu avec vous. Et puis, la troisième raison, pour faire un focus sur les administrateurs, c'est le rôle du conseil d'administration pour la gouvernance. Les responsabilités de l'administrateur sont telles foi. Le conseil nous dit le Seigneur a quatre missions possibles. Un, il contribue à définir la stratégie de l'entreprise et il contrôle la mise en œuvre de la stratégie par le management. Fonction stratégique. Deux, il arrête les comptes de l'entreprise et il s'assure de la qualité de l'information financière que donne l'entreprise aux actionnaires et de manière plus large au marché en public. Troisièmement, c'est le conseil d'administration qui nomme les principaux dirigeants, qui évalue leur action, qui fixe leur rémunération et qui prépare leur succession. Et quatrièmement, on dit le secrétaire, il appartient au conseil d'administration de veiller à la solidité du dispositif que l'on appelle souvent de contrôle interne. Comment l'entreprise gère-t-elle ses risques? Comment respecte-t-elle les lois, les règlements, l'éthique professionnelle? Et le conseil, là, il n'est pas en première ligne. C'est le management qui est en première ligne. Mais le conseil a une fonction de. L'OCDE nous dit en entier, on revient, surveillance. Voilà le rôle du conseil. Donc il est bien défini. Il est bien défini. Au quotidien, il n'est pas l'acteur majeur dans la vie de l'entreprise. L'acteur majeur était dans le management. L'élection, l'encadrement, bien sûr, c'est eux qui au quotidien dirigent. Mais le conseil a ses quatre missions fondamentales. Et donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, en France, le conseil d'administration exerce effectivement, de manière professionnelle, ses missions? Alors évidemment, la réponse c'est pas oui, non. Et selon la taille des entreprises, leur culture, leur statut, il y a bien sûr des situations très différentes. Mais je réponds à votre question sur l'historique récent de la gouvernance en France. Pour moi, le point de départ de la gouvernance d'entreprise moderne, on a travaillé dès le 19e siècle sur la gouvernance d'entreprise. Mais l'école moderne de la gouvernance, pour moi, c'est 1992, rapport Cadbury au Royaume-Uni, qui relance une réflexion, une dynamique sur ce que doit être une bonne gouvernance d'entreprise. La France fait le même exercice 5 ans après, j'ai 1985, puis la commission Dupont 2002. Donc, c'est un mouvement relativement récent, il y a une dizaine d'années. Et est-ce qu'on a avancé depuis 10 ans de manière formidable, formidable. Et d'une manière sans doute que vous ne l'évaluez pas complètement, parce que c'est difficile de le faire. Il faut être dans la boîte pour mesurer l'avancement des choses. Et puis si les étapes qui restent à part. Donc, on a beaucoup avancé. Comment a-t-on avancé? C'est une question intéressante. Et dans notre vieux pays régalien, où on a toujours l'État, il est dit que la règle, la loi, le règlement, il est très intéressant de noter que pour ce qui est de la gouvernance d'entreprise, on a très peu légiféré en France comme dans les autres pays. Il n'y a qu'une exception dans le monde, c'est les États-Unis, qui ont fait deux lois sur la gouvernance d'entreprise qui font chacune plusieurs centaines de pages. Une sorte de furieuse de réglementation, elle est américaine, elle n'est pas française. Nous, on a avancé principalement au travers de ce qu'on appelle avec la copine à soft law, la loi 12, les formation professionnelle. Nous avons un code de gouvernance en France, AFREM, PDF, et puis nous avons aussi des organisations professionnelles, dont l'Institut français des administrateurs, qui en permanence alimentent les acteurs, notamment les administrateurs, en bonne pratique. Depuis qu'on a créé l'IFRA en 2003, nous avons publié 26 guides pratiques. Comment bien faire son métier d'administrateur. Voilà le moteur. C'est ça qui fait avancer la gouvernance, qui améliore la qualité de la gouvernance en France. Ce n'est pas un article de loi, chaque année, il y en a carrément, tous les ans, mais le rôle de la loi en matière de loi. Deuxième notation, très prometteuse pour la France. En 2002, commission de Pont, lorsqu'on parle de gouvernance, on désigne les grandes sociétés cotées à large actionnaire. C'est-à-dire une petite centaine de très grandes entreprises privées cotées en bourse. Ce que nous observons, c'est que cette recherche d'une meilleure gouvernance, maintenant, elle est le fait de tout type d'entreprises et d'organisations. Les entreprises publiques, les PME, y compris beaucoup de PME familiales, le monde mutualiste et coopératif, et dernière vague, le monde des associations, des fondations. Tout le monde cherche à améliorer sa gouvernance. Et c'est une bonne nouvelle pour notre pays. C'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a une réserve d'efficacité collective formidable dans notre pays. La réserve principale, on va dire, mais ça, nous ne nous en occupons pas, l'IFRA, elle est sans aucun doute dans la gouvernance publique, celle de l'État, des collectivités locales, des établissements publics, où on est très loin de l'optimum en termes de gouvernance.
Est-ce qu'on a véritablement atteint un optimum dans les entreprises du CAC 40, dans la mesure où la crise a montré, et un certain nombre de dérives préalables à la crise ont montré justement qu'il y avait un certain nombre de problèmes dans la prise de décision, dans le contrôle de la prise de décision, et ça s'est traduit par des dérives sur les rémunérations, entre autres, connues du public. Voilà, donc il y a quand même quelques soucis. Il y a eu effectivement la création, dans les recommandations, il y avait création de comités de rémunération, création de comités d'audit, création de comités de direction, de nomination, pardon. Et ça, ce sont des recommandations qui ont été appliquées sur le papier, effectivement, à un grand nombre d'entreprises. Mais il semble que le résultat attendu de ces mesures n'a pas été à la hauteur de ce qui a été annoncé.
Quels sont les points, les domaines par lesquels on a progresser et ce, on doit progresser. Les points dans lesquels il y a des réels progrès, surtout dans la vie des conseils d'administration du travail, j'en relève trois. Premièrement, le fonctionnement des conseils d'administration. Vous venez de le dire, c'est pas marchand, pendant que j'ai exercé mon premier mandat d'administrateur, 25 ans, le conseil se réunissait deux fois par an, pendant 12 heures, une fois en pratique annuelle. On avait un document de 4 pages sur la table. Voilà ce qu'était la vie du conseil en France, c'est un mélange, il y a 20 ans, 27 ans. Bien, aujourd'hui, à la fin de mes chiffres, les conseils d'administration se réunissent par 4 ans, en moyenne 8 fois par an. Chaque réunion dure une de 10 jours. Il y a en moyenne 4 comités dans un conseil. Un comité d'audit, les comptes, un comité de rémunération, un comité stratégique, et puis dans beaucoup de conseils, on voit l'énergie apparaître en comité, développement durable, gouvernance, éthique. Bon, 4 comités. On travaille autant dans les comités que les conseils. Nous, notre pointage à l'IFA, c'est que ce qu'on attend d'un administrateur aujourd'hui, c'est 2 jours de travail plein temps par mois. 1 mois et demi de travail plein temps par mois. Voilà, en termes de quantité de travail. Le dossier moyen du comité d'audit, j'en précise dans le plan 3, c'est 350 pages. Donc, soit logiquement coupé si il y a des chiffres 350 pages. Et donc il faut travailler. C'est l'enquête sur week-end pour bien comprendre. Donc on travaille beaucoup et de manière professionnelle dans les conseils. Deuxième axe où on a beaucoup progressé. Vous prenez, on a fait cet exercice récemment à l'IFRA. Le rapport d'activité de l'ICCPPD il y a 10 ans, le document de conférence, et puis vous prenez le même document l'an dernier, 2009-2010, et vous regardez le contenu des documents. C'est absolument spectaculaire. Et il y a 10 ans, dans les rapports d'activité de nos grandes sociétés cotées, on ne disait rien sur la rémunération des dirigeants, on ne disait rien sur la gestion des risques de l'entreprise. On ne disait rien sur le fonctionnement du conseil d'administration.
C'est parce qu'il y a eu des lois, précisément, pour les deux premiers points.
Des discriminations par les professionnels, par les proxys qui nous représentent, on reçoit des interdictions, on est interpellé à l'Assemblée générale, il y a des normes qui sont souvent très partagées. Donc, oui, dans ce registre-là, on a beaucoup progressé. Moi, je termine les deux directions dans lesquelles, à mon sens, il reste énormément de progrès. J'ai parlé du fonctionnement des conseils. La composition du conseil d'administration en France qui a évolué. Une majorité d'administrateurs qualifiés indépendants, donc du management. Pas majorité. Il y a 25% d'administrateurs étrangers dans le conseil, ce qui est une très belle performance. Il n'y a que 15% de femmes, ce qui est une performance comparable. Le principal de nos conseils d'administration, c'est l'endogamie. Il y a 100 personnes qui contrôlent 45% des membres d'administrateurs de nos sociétés en France. Il n'y a plus aucun pays au monde où l'on trouve cette situation. Et donc, ça, il faut faire bouger les choses. Plus de diversité dans les recrutements, limiter les cumuls de mandats. Il a peut-être besoin de la loi pour accélérer les choses. Ça, c'est un acte. Dernière particularité, sur la gestion du conseil, on parle beaucoup, et c'est important, des résultats financiers, évaluation des dirigeants, sélection des administrateurs, la stratégie, et on parle de loi et on peut faire davantage du business, des clients, de la concurrence, de la recherche. Et on parle peu, et on devrait le faire beaucoup plus, du capital humain, de la responsabilité sociale de l'entreprise. Voilà des sujets dont les conseils d'administration devraient s'emparer davantage de nos fiches.
Merci, mais pour cela, il faudrait peut-être effectivement une ouverture plus grande à d'autres types et d'autres sociologies aussi des membres de conseils d'administration. Mais on en reparlera tout à l'heure. Alissa, excusez-moi, Koldiatsova, je savais que j'aurais du mal, mais voilà, ça y est. L'OCDE a émis il y a un certain nombre d'années, vous allez me rappeler quand, des guidelines, des principes directeurs concernant le fonctionnement, l'organisation de la direction des grandes entreprises internationales, puisque c'était limité quand même à cette catégorie-là de grandes entreprises. Pourquoi est-ce que l'OCDE, qui a priori ne devrait pas être dans des sujets intéressant le fonctionnement interne des entreprises, a éprouvé le besoin de proposer ces lignes directrices et quelle en est la portée effective? Est-ce que l'OCDE a les moyens éventuellement de vérifier, de faire respecter? Ou bien est-ce qu'il s'agit de vœux pieux?
D'accord. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. J'ai l'honneur de participer à la conférence et représenter l'OCDE ici à Lyon. J'appartiens effectivement à l'unité de l'OCDE qui s'occupe spécifiquement des questions de gouvernance d'entreprise, cotée, non cotée, publique, tous les types d'entreprises. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques informations sur le principe de gouvernance de l'OCDE. Et après, comment est-ce que l'OCDE travaille avec des pays membres et non membres pour en fait l'inciter d'appliquer ces guidelines. Donc, pour commencer, je vais décrire brièvement le principe de gouvernance de l'OCDE pour vous donner une meilleure idée de quoi on parle. Après, je vais parler d'application dans les pays OCDE et non OCDE. Donc, comme certains d'entre vous certainement connaissent, le principe de l'OCDE de gouvernance d'entreprise ont été créés il y a plus de 10 ans, en 1999, et ont été révisés en 2004, la dernière fois, par le groupe de direction de gouvernance d'entreprise de l'OCDE, qui réunissent effectivement tous les pays de l'OCDE, aujourd'hui il y a 33, et qui effectivement gèrent tout le travail de l'OCDE à niveau de gouvernance d'entreprise. Donc, le guidelines, le principe de gouvernance de gouvernance d'entreprise de l'OCDE aujourd'hui sont, on peut dire, mondialement reconnus. Ils sont adoptés comme une de 12 normes fondamentales de Financial Stability Board, donc le Forum Stabilité Financière. Ils font aussi une base d'évaluation de pays à niveau de gouvernance conduite par la Banque mondiale, qui s'appelle ROSC Reviews. Et aussi, il faut dire que les principes, pour répondre à votre question, n'ont pas un caractère contraignant. Donc, c'est-à-dire, l'OCDE n'a pas forcément une force directe de l'obliger, des pays membres ou non membres, d'appliquer les principes tels qu'ils sont. Ceci dit, les pays qui veulent entrer dans l'OCDE, il y avait certains qui, comme vous l'avez peut-être entendu, qui ont récemment entré dans l'OCDE, sont examinés par le comité de gouvernance de l'OCDE afin d'établir le cadre de gouvernance ainsi que la mise en œuvre, si la mise en œuvre de ce cadre est appropriée. Donc, les principes, ils sont composés, ils gardent, en fait, c'est une soin assez large dans ce qui est couvert. Et donc, il est composé de 6 chapitres, 6 sujets qu'on regarde, le fondement d'un régime de gouvernance efficace, les droits d'actionnaires et les principales fonctions de teneur de capital, les traitements équitables d'actionnaires, le rôle des parties prenantes qui était évoqué dans la présentation avant, les transparences et diffusion d'informations et la responsabilité des conseils d'administration qui est aussi un domaine important. Donc, en fait, ce qui est important de dire, c'est que leurs principes ils sont accompagnés par ce qu'on appelle les méthodologies qui aident en fait les pays, au gouvernement principalement, d'appliquer le principe de l'OCDE. Donc, les méthodologies, en fait, c'est un document qui est assez détaillé et qui met l'accent, en fait, sur le résultat, c'est-à-dire ce qu'on appelle functional equivalence. Donc, c'est-à-dire, on ne demande pas forcément que certains éléments de gouvernance soient appliqués exactement dans la même façon dans tous les pays, reconnaissant bien sûr que les pays ont leur propre histoire et différences. Mais que certains, comme on dit, outcomes ou résultats sont quand même obtenus. Donc, les méthodologies de l'OCDE n'encouragent pas le classement des pays par rapport aux autres ou de l'élaboration de notes globales sur la gouvernance. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'évaluer les pays qualitativement par rapport à ce qu'ils peuvent ou doivent faire en ce qui concerne le principe. Et cette évaluation doit être suffisamment approfondie pour permettre de décider si le principe est respecté dans la pratique, non seulement en tant que concept. En complément de principe de gouvernance de l'OCDE, on a en fait un autre instrument qui est peut-être intéressant d'évoquer, c'est-à-dire les lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance d'entreprises publiques, donc qui appartient à l'État, à une partie ou en totalité. Et en fait, c'est un instrument important puisque la présence d'une entreprise publique dans le pays de l'OCDE n'est pas marginale du tout, non seulement en France, mais dans le pays scandinave Et aussi, quand on regarde les entreprises cotées mondialement, donc c'est-à-dire quand on prend la liste de 10 grosses plus entreprises, les 10 plus grosses entreprises cotées, on voit qu'il y a pas mal quand même d'entreprises publiques chinoises ou autres. Et la crise financière, en plus, a mis l'accent sur la question de gouvernance des entreprises publiques, vu que le gouvernement a dû injecter des sommes importantes dans les entreprises privées, ou qui étaient privées avant, et dans certains cas, ont du coup décidé de participer dans la gouvernance des entreprises, de ces entreprises. Et donc, jusqu'à 2006, il n'y avait pas du tout en référence internationale pour aider le pouvoir public d'évaluer ou améliorer la manière dont exerce les fonctions actionnaires de ces entreprises. Ces lignes directrices formulent des suggestions concrètes quant à la manière dont le problème peut être réglé au niveau de gouvernance de ce genre d'entreprises. Ils peuvent être considérés en effet en tant qu'un complément de premier instrument dont je vous ai parlé. On regarde plus dans ce cadre, on regarde plus les entreprises avec un but commercial et pas forcément des entreprises comme les hôpitaux, etc., qui n'ont pas forcément un but commercial. Après, je pense que ce serait intéressant de partager quelques mots avec vous sur le futur rôle de l'OCDE en matière de gouvernance. Qu'est-ce qu'on compte faire? Et là, souvent, on a posé, en fait, les questions se posent, est-ce que les principes de gouvernance de l'OCDE seront révisés dans le mois ou dans l'année qui suivent? Et la réponse n'est pas forcément. Et je vous explique pourquoi. Et donc, on avait en fait beaucoup de réflexions sur le rôle de gouvernance dans la crise financière. Et les premières les conclusions clés qu'on a tirées de ces analyses, c'est que ce n'était pas forcément le manque de normes de gouvernance qui était problématique, mais par contre l'application de normes existantes qui n'étaient pas forcément optimales. Et donc, on a fait en fait une série de rapports, trois précisément, que vous pouvez télécharger gratuitement à partir du site de l'OCDE, qui en fait fournissent les recommandations qui peuvent aider au niveau d'implémentation de principes de gouvernance. Dans ces rapports, le groupe de direction de l'OCDE observer des défaillances principalement dans le domaine lié, comme était évoqué avant, de rémunération, de gestion de risque et des pratiques du conseil d'administration, ainsi que les exercices de droits des actionnaires. Depuis quelque temps déjà, la question de rémunération des cadres a pris bien sûr en grande importance dans le débat public en France, comme en Grande-Bretagne, aux États-Unis et ailleurs. Les mesures obligatoires ou conseillées, telles que on s'appelle en anglais le CMP, sont maintenant assez fréquentes. Notamment, les réglementations américaines Dodd-Frank s'adressent à ces questions aussi. Je partage avec vous quelques recommandations qui ont été évoquées dans le rapport récent de l'OCDE à niveau du rôle de gouvernance dans la crise financière. Après, je passe à la question de gouvernance dans les pays émergents et qu'est-ce que l'OCDE fait dans ces domaines. Donc, il y a plusieurs leçons qu'on a tirées de la crise financière. À niveau du conseil d'administration, on note que la responsabilité du conseil dans la définition de stratégie et de prévention de risques doit aussi être entendue à la mise en place des surveillances des systèmes de gestion de risques à l'échelle des entreprises. De nombreuses critiques ont été formées à l'encontre du conseil administrateur à temps partiel et de notions d'objectivité et indépendance qui soit l'un des piliers de principe. Comparé à d'autres pays, le nombre de membres du conseil indépendant en France reste relativement faible. Il est important aussi, juste pour évoquer d'autres recommandations, on note que le rôle de président. Le président doit jouer un rôle important de premier plan en s'assurant que le conseil s'attaque bien au problème au plus important auquel l'entreprise est confrontée. Et aussi que le rôle de la directeur général et président du conseil d'administration sont de plus en plus séparés. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il convient que les sociétés expliquent quelles mesures ont été prises pour éviter le conflit d'intérêts. La rapport récent de l'OCDE aborde également la question des sociétés financières placées sous la surveillance d'une autorité qui applique aux membres de leur conseil d'administration les critères de honorabilité et compétences. Et tels critères, on pense que devraient être entendus encore aux compétences techniques et professionnelles d'administrateurs, notamment à leurs compétences en matière de gouvernement d'entreprise et gestion des risques. Une autre chose que je voulais partager avec vous, c'est que au-delà de notre rôle normalisatrice, on devait aussi sur l'implémentation de différentes règles de l'OCDE. Et dans le pays membre, on a introduit en fait très récemment ce qu'on appelle les reviews de pair, ce qui est un instrument assez souvent utilisé au sein de l'OCDE. Et c'est fait en fait dans le comité de l'OCDE de gouvernance d'entreprise. Les premières revues de pair auront lieu le mois prochain, en fait, à l'occasion de prochaines réunions de comité de l'OCDE sur la gouvernance d'entreprise. Et là, le comité est convenu que les examens par pair devraient faire l'objet d'une organisation thématique. Cela permet non seulement de couvrir un plus grand nombre de pays, mais aussi d'admettre que les difficultés d'application se concentrent autour de certains aspects problématiques. À niveau de notre travail avec des pays non membres de l'OCDE, je trouve que c'est aussi un domaine très important. On travaille en fait dans le contexte, dans le programme régional qu'on a créé depuis quelques années, des tables rondes régionaux, comme on appelle, en Asie, en Moyen-Orient, dans les pays arabes et Afrique du Nord, ainsi que l'Amérique latine. Et chaque table ronde régionale se concentre sur un nombre de priorités que les pays ont en commune. Donc, c'est-à-dire en Asie, on regarde les questions de ce qu'on appelle related party transactions. En Amérique latine, l'activisme des investisseurs institutionnels. Et en Moyen-Orient, par exemple, on regarde les questions de gouvernance de banques, qui est aussi très important pour ces régions-là. Et donc, je ne sais pas si j'ai encore énormément de temps, mais juste pour faire quelques commentaires pour conclure. Je voudrais souligner que généralement les recommandations et leçons tirées de la crise sont, on trouve, pertinentes pour les pays membres ainsi que pour les pays non membres, même si certaines recommandations sont peut-être moins urgentes pour des pays d'Amérique latine ou Moyen-Orient et qui ne sont pas forcément pertinentes à la même mesure pour tous les pays ou pour toutes les régions. Les grands débats sur la gouvernance d'entreprise qu'on voit dans les pays membres sont souvent similaires. Par exemple, si on regarde le rôle des investisseurs institutionnels dans la gouvernance d'entreprise, c'est un des exemples auxquels tous les pays, ou presque tous les pays, s'intéressent, pays membres ou non membres. On voit d'ailleurs que les pays non membres suivent quelque part les tendances dans les pays membres. On voit que presque dans tous les pays ont déjà introduit des codes de gouvernance ou des guidelines de gouvernance, quel que soit. Et en effet, cette année, ces guidelines, cette année, dans les dernières 5 années, ces guidelines sont plus, dans la plupart des pays, sont devenues quasi obligatoires, où il y a tendance d'obliger un certain niveau de disclosure, un niveau de différents guidelines qui existent. Donc, quel que soit le débat ou le sujet, le point fort de l'OCDE, j'espère, c'est de faciliter le partage d'expériences parmi les pays membres et non membres. Et je pense que le secrétaire général qui a assisté à l'ouverture de ces conférences veut que le conseil de l'OCDE reste pertinent face au contexte économique différent. C'est ainsi que notre porte reste ouverte pour différents pays de travailler avec nous. Donc, je reste disponible pour toutes les questions. Pour
vous. Merci. Ce qui est important, c'est que l'OCDE fait un suivi assez serré de l'évolution à la fois des pratiques et surtout des réglementations dans les différents pays. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir les travaux du département où travaille Alissa, parce que c'est vraiment des bases de données très intéressantes sur comment fonctionne la gouvernance dans d'autres pays. Et c'est un instrument précieux. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, bien entendu.